nos souvenirs, c'était les trois cafés gourmands sur Grand Sud FM. 10h10, bonjour, bienvenue, merci d'avoir choisi Grand Sud FM pour vous accompagner. Week-end spécial à l'occasion du Salon du Livre du Grand Narbonne. Nous repartons tout de suite sur le cours Mirabeau pour retrouver Marilyn avec deux premiers invités.
Et oui, Jean-Michel, bonjour à tous. Effectivement, le Salon du Livre, 8e édition, Salon du Livre du Grand Narbonne sur le cours Mirabeau continue aujourd'hui. Alors, je suis en compagnie, bien sûr, de deux auteurs, Marin Ledin et Dominique Manotti. Marin, que vous retrouverez sur le stand numéro 7, Cultura, et Dominique Manotti, que vous retrouverez sur le stand 17, la librairie Libellis. Donc, on va les retrouver dans quelques petites secondes, juste une petite présentation. Marin Ledin, Dominique Manotti, tous les deux auteurs de Polar. Et vous verrez, c'est justement le thème de la table ronde qu'ils animeront donc tout à l'heure à 11h45 à l'espace rencontre du salon. Et le thème sera « Le polar fait-il encore de la politique ?» Donc, bonjour Marin.
Bonjour.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors, une première question. Comment est-ce que, Dominique Manotti, vous définiriez le polar ?
Le polar ou le roman noir, ça dépend. C'est un genre littéraire qui s'est formé à partir du roman policier. Le roman policier, c'est le roman qui naît au XIXe siècle, un siècle optimiste, un siècle rationnel, un siècle qui croit au progrès. Et puis, catastrophe, Première Guerre mondiale, l'Occident bascule vers le drame et le roman policier bascule vers le roman noir. Et le roman noir raconte la montée du gangstérisme organisé, des mafias, de l'argent sale, des entreprises qui filoutent et qui blanchissent le fric avec les gangsters. Bref, le monde actuel. Le roman noir, c'est le roman du 21e siècle.
Alors, merci pour cette définition du polar, hein, un franc-parler qu'on apprécie beaucoup ce matin, Dominique Manotti. Et dans votre actualité à chacun, on retrouve vos derniers ouvrages. Donc, Marin Ledin, vous avez publié en mars dernier « Le rame au diable ». En quelques mots, de quoi s'agit-il ?
C'est une illustration de la définition que vient de donner Dominique à l'instant. C'est un roman qui s'intéresse au lobbying de l'industrie du tabac dans les années 80, 90 et 2000. Qui interroge la manière dont des multinationales comme celle de l'industrie du tabac, mais ça pourrait en être une autre, comme dans le secteur de l'agroalimentaire par exemple, travaillent avec, pour, contre la loi, contre les politiques agricoles, les politiques de santé publique, pour nous vendre un produit nocif.
Donc ça veut dire que quand vous écrivez ce genre de polar, vous enquêtez un petit peu avant ?
J'enquête pas parce que je suis pas journaliste. Je m'appuie sur le travail d'enquêteurs, de journalistes, tous les procès qu'il y a pu avoir autour de l'industrie du tabac, et j'essaie de trouver un fil narratif et romanesque à l'intérieur de tout ça.
Merci. Et vous, Dominique Manotti, Marseille 73, c'est votre dernier livre. Vous nous racontez brièvement.
À Marseille en 73. Il y a eu ce qu'on appelait une ratonnade, c'est-à-dire il y a eu en 3 semaines à peu près 17 Nord-Africains, essentiellement des Algériens, assassinés dans la rue par des individus isolés. Sur les 17, pas d'enquête, pas de procès, pas de coupable. Et c'était ensuite le silence. Et plus personne n'a jamais parlé de cette ratonnade. Et ça a été pour moi, je suis tombée dessus par hasard, et ça a été une énorme interrogation. J'ai voulu savoir ce qui s'était vraiment passé. Et le roman raconte ce qui s'est passé à Marseille en 1973, entre la fin du mois d'août et la fin du mois de septembre 73. C'est-à-dire toute cette série de meurtres sans criminels.
Donc là, Dominique Manotti, vous êtes historienne, donc vous avez fait pas mal de recherches, j'imagine.
Oui, recherche de sources comme Marin, c'est-à-dire, moi, historienne, je ne vais plus du tout travailler dans les archives pour mes romans. Les archives, c'est comme les enquêtes directes, ça prend beaucoup de temps, etc. Donc je travaille à partir de ce qui a été déjà fait, j'ai dépouillé toute la presse de l'époque et j'ai interrogé les survivants. Il y en a encore. Donc, je me suis dépêchée d'interroger les survivants. J'en ai retrouvé et voilà, j'ai fait le roman à partir de là.
Donc, n'hésitez pas, Marseille 73, Dominique Manotti, et puis Marin Le Dain avec leur âme au diable. Alors, je vais revenir quand même sur le sujet de la table ronde. Le polar fait-il encore de la politique, que vous animerez donc tout à l'heure, hein, je l'ai dit au moment de l'écriture de vos récits. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la politique, Marin?
Moi, je me la pose. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par la politique.
Moi, la politique en général.
Oui. Ce qui m'intéresse dans sa dimension politique, c'est comment on peut comprendre l'industrie, l'entreprise, en l'occurrence bon, là, dans ce bouquin-là, l'industrie du tabac, comme une entreprise criminelle. Et en quoi le fait de la regarder comme une entreprise criminelle est un point de vue politique justement sur ce sujet-là.
Donc c'est ce dont vous débattrez entre guillemets tout à l'heure, petite table ronde avec Aline Béraud, qui est la sous-directrice de la médiathèque du Grand Narbonne, qui a dû se régaler avec vos deux polars et qui donc animera votre table ronde. Écrire un polar, est-ce que c'est être un artiste engagé, Dominique Manotti?
C'est très compliqué le terme d'engagé, hein. Moi, j'ai ma vision du monde. Ma vision du monde, c'est la même depuis très longtemps. Donc ma vision du monde, c'est ça qui forme mes romans. Je peux pas écrire autre chose que chaque roman. Je l'écris pas pour convaincre, si c'était ça le sens d'engagement. J'écris pour comprendre. J'écris un roman parce que j'ai été interrogée, j'ai rencontré un problème que je ne comprenais pas et je veux essayer de le comprendre. Pour le comprendre, la meilleure façon, c'est d'écrire un roman. C'est-à-dire, je prends les faits tels qu'ils se sont passés et j'invente des personnages. Et en inventant les personnages, je me mets à leur place, j'essaye de comprendre pourquoi et comment ils ont agi et je raconte cette histoire. Et à la fin, j'ai compris ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez, c'est pas un engagement au sens politique du terme. Je ne travaille pas pour convaincre.
Oui, j'ai bien compris. Donc, du coup, vous cherchez à transmettre un petit peu à vos lecteurs.
Ah oui, ça, je cherche à faire lire, oui.
Et vous, Marin Le Dain, qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à vos lecteurs à travers vos polars?
C'est exactement la même chose. La question de l'engagement, pour moi, c'est quelque chose de collectif. Donc on va être engagé dans un syndicat, on va être engagé dans un parti ou dans une structure quelle qu'elle soit, plus ou moins formelle. L'écriture, c'est un acte assez solitaire. Et donc le cœur de notre travail, c'est exactement ce que disait Dominique, c'est essayer de poser les bonnes questions, à minima. Je ne sais pas si on a les réponses, mais essayer de poser les bonnes questions.
En tout cas, je pense que la table ronde va être très très intéressante. Un Marin Le Dain, donc stand numéro 7, stand Cultura, vous êtes là jusqu'à 17h aujourd'hui. Et Dominique Manotti, présente au stand numéro 17, librairie Libellis. Il faut venir la voir avant le début d'après-midi ce matin.
Hein. C'est ça, ce matin ça serait mieux.
Et venez tout simplement à l'espace rencontre de 11h45 à 12h30, ça va être trois quarts d'heure de bonheur ce dimanche avec Le Polar fait-il encore de la politique. On a bien commencé ce matin cette 8e édition du Salon du Livre. Deux personnes avec un franc-parler, j'aime beaucoup, on commence bien et on attend les auditeurs de Grand Sud FM. Merci beaucoup Marin Le Dain.
Merci à vous.
Et merci beaucoup Dominique Manotti.
Merci à vous.
Allez Jean-Michel, on se retrouve avec un deuxième auteur dans quelques instants, ce sera avec Benjamin, on va aller faire un petit tour pour voir, les auteurs arrivent tous tranquillement ce matin. Donc vous, n'hésitez pas à venir sur ce Salon du Livre, à tout à l'heure.
À tout à l'heure Marilyn, sur Grand Sud FM à 10h19, on fait une courte pause.
Grand Sud FM.
10h25, bon dimanche avec nous sur Grand Sud FM, émission spéciale à l'occasion du Salon du Livre du Grand Narbonne. On retrouve tout de suite Benjamin avec plusieurs invités.
Oui, tout à fait, Jean-Michel, je suis en compagnie de trois écrivaines qui explorent l'amour et les sentiments, chacune à leur manière, et réenchantent la vie et le cœur. On va commencer cette interview avec Coralie Cojol. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Alors, vous avez sorti un premier roman intitulé « Monsieur Edgar et les impatients » aux éditions Erol. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Eh bien, « Monsieur Edgar et les impatients », c'est l'histoire d'Edgar, qui est auteur de romans policiers, mais qui ne parvient pas à écrire chez lui parce que ses voisins sont trop bruyants. Et par un concours de circonstances, il va emménager dans une résidence pour seniors. Et là, il se dit, c'est nickel la résidence pour seniors, parce que les petits papy-mamies, ils vont manger leur petite compote, boire leur tisane, se coucher tôt et me laisser tranquille pour écrire. Sauf que là-bas, il va tomber sur une brochette de petits vieux vraiment gratinés et qui sont bien décidés à profiter de l'existence et qui vont surtout pas le laisser tranquille. Donc voilà, c'est un roman un peu assez loufoque, avec un petit soupçon de mystère, et qui parle aussi du fait de vivre ensemble, de ce que les générations peuvent s'apporter les unes aux autres.
Très bien, et en plus, un premier roman qui en appelle un second, car prochainement, un deuxième va sortir.
Tout à fait, j'ai mon prochain roman qui est prévu pour février, je viens de le rendre à mon éditrice, donc voilà, l'été sera studieux, parce qu'il va falloir retravailler un petit peu tout ça, c'est une autre aventure, et je suis vraiment ravie de continuer sur cette voie, et j'espère que je pourrai vous le présenter l'année prochaine.
Eh bien merci Coralie, on va continuer cette interview avec Mélanie. Bonjour Mélanie.
Oui, bonjour.
Alors Mélanie, vous allez nous présenter votre troisième roman qui s'appelle Réponds-moi, toujours édition Erol. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce roman ?
Donc Réponds-moi, c'est un roman épistolaire par mail qui dure 20 ans. C'est une histoire entre Nicolas et Florence qui se sont aimés quand ils étaient jeunes adultes, qui se retrouvent 10 ans plus tard dans les rues de Montpellier et qui commencent donc cette correspondance par mail. Et donc on les suit, chacun a construit sa vie, mais il y a quelque chose entre eux qui perdure malgré le temps. Donc voilà, c'est le postulat de départ. Est-ce que l'amour peut mourir parce qu'on l'a décidé Voilà, c'est un roman, tendre et en même temps on va les voir traverser des épreuves ensemble, se disputer. Voilà.
Vous avez d'autres romans que vous vendez sur votre stand ?
Oui, j'ai mon premier roman qui s'appelle Reste aussi longtemps que tu voudras, ainsi que sa suite Reviens quand tu veux, qui se passe en Italie. Et puis mon dernier roman Starling, qui se passe à Londres. On suit une jeune femme un petit peu introvertie qui s'est construit une carapace très solide et qui va essayer de se confronter un petit peu à la vie et d'apprendre que de développer sa résilience, d'apprendre qu'on peut vivre sans souffrir nécessairement et que la souffrance de toute façon fait partie de la vie.
Eh bien, merci, Mélanie, d'avoir répondu à mes questions. On va terminer cette interview avec Nathalie Langevielle, qui vient nous parler du roman Des papillons sous oxygène. Donc là, il est question de reconquête de l'être aimé dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit résumé ?
Oui, alors, bonjour. Il s'agit d'un roman où le héros est un héros, c'est pas une héroïne, donc ça casse un petit peu les codes. Il est rempli d'autodérision, d'humour, mais il est vraiment très très nul pour reconquérir sa femme. Ils sont mariés depuis 30 ans, et puis un jour devant leur pizza du vendredi midi, qui est traditionnelle chez eux, elle le quitte. Et bon, lui qui croyait sa vie extraordinaire, tout à fait à l'image de ce qu'il voulait, se rend compte que c'était pas du tout le cas pour son épouse. Donc, quand on tombe amoureux, on a des papillons dans le ventre. Donc, lui va essayer de mettre les papillons de sa femme sous oxygène.
Eh bien, en tout cas, c'est le moment pour moi de vous laisser, car vous êtes attendu à l'espace rencontre de ce salon du livre du Grand Narbonne pour nous parler de Feel Good, l'amour dans tous ses états. Donc merci en tout cas à toutes les trois de m'avoir accordé de votre temps et puis bon salon du livre. Allez, on va continuer dans quelques instants sur Grand Sud FM avec notamment Louise Eckland qui va nous parler de l'Angleterre dans son dernier roman. Donc restez branchés sur Grand Sud FM. On ira également en direction des Halles de Narbonne dans les toutes prochaines minutes. Merci Jean-Michel.
Merci Benjamin, on se retrouve dans un instant. Tout de suite, c'est l'heure de l'horoscope de Jessica Saint-Etienne.
Grand Sud FM.
We can do better, c'était Matt Simon sur Grand Sud FM, 10h35, bon dimanche matin à vous toutes et à vous tous. Nous sommes toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne, on va retrouver Benjamin en compagnie de la journaliste Louise Eckland.
Oui Jean-Michel, je suis en compagnie de Louise Eckland que vous pouvez retrouver sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne qui est présente au stand numéro 7 Cultura. Bonjour Louise.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors, outre-Manche, la reine Elisabeth II a célébré son jubilé de platine, 70 ans de règne. Et justement, nous sommes en votre compagnie, Louise, auteur de ce livre, God Save My Queen. Alors, vous vous définissez comme la plus française des petites anglaises. Ce livre, c'est un hommage à vos origines.
Tout à fait. Je suis fière d'être britannique et j'avais envie de participer avec le public français, la ferveur qu'on peut ressentir. Pour cette femme, surtout, je pense qu'on n'est pas forcément tous monarchistes, mais on est tous un petit peu fans de cette femme exceptionnelle. 70 ans de règne, on ne le vivra plus. En tout cas, moi, je le vivrai plus. Et c'était un moment exceptionnel. J'ai pu être à Londres. On avait les équipes de Stéphane Bern à Paris sur un plateau. Moi, j'étais reporter sur place. J'étais avec les sujets de Sa Majesté. Et j'ai pu interviewer pas mal de gens différents pour partager cette journée avec mes amis français. Voilà.
La reine Elisabeth II, c'est 70 ans de règne, vous nous l'avez dit. Donc, c'est le plus long règne de la monarchie britannique. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Eh bien, elle est quand même notre phare, notre lumière, notre digne représentante. Je trouve que cette femme n'a jamais failli à ses devoirs. Elle, c'est une femme de foi, une femme exceptionnelle, la preuve vivante qu'on peut traverser des périodes compliquées et s'en sortir. Et je me suis rendu compte de ça pendant la pandémie. J'avais envie d'entendre son discours, de savoir ce qu'elle allait livrer, puisqu'elle pèse ses mots. C'est une femme de peu de mots, mais quand elle parle, ça veut dire beaucoup de choses. Et voilà, tout simplement, j'étais en admiration pour elle. Et je me suis aussi rendu compte à travers les questions que les Français me posaient. Les 70 ans de règne se rapprochaient. Il y avait la série The Crown. Beaucoup de gens, je pense, ont vu cette série qui est juste magnifique, très bien réalisée, très bien jouée. Et on me demandait de, en quelque sorte, devenir spécialiste de la reine. Alors, avec des milliers de questions. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de savoir qui elle est réellement, pourquoi on l'aime tant, parce que je savais que je l'aimais, mais j'étais peut-être incapable de vous expliquer pourquoi.
Justement, d'où vient cet attachement pour la reine hein ?
Elle nous accompagne depuis notre naissance. Pour 83% des Britanniques, elle fait partie de notre vie depuis notre naissance. Et on la voit à la télé à prononcer des discours. Elle a côtoyé des premiers ministres de Winston à Boris Johnson. Elle a toujours fait partie de ma vie. C'est un peu comme notre grand-mère, notre arrière-grand-mère à tous, en quelque sorte. Il ne faut pas oublier qu'elle a 96 ans. Elle a toujours été là. Et si on a du tourisme et une économie du pays qui tourne plutôt bien aussi, c'est aussi en partie parce qu'on a cette monarchie. On l'accueille, on l'embrasse. Pas tout le monde, hein. Chacun a son avis, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est fascinant. T'as encore des rois, des reines, des princes et des princesses, quand même. C'est fascinant. Hein.
Dans votre ouvrage, donc God Save My Queen, on retrouve des anecdotes, des révélations et des témoignages, et surtout un humour so british. Comment s'est passée l'écriture de votre roman ?
Ben, ça s'est passé super bien. C'était assez spontané, j'avoue. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai appelé mes anciens profs, des amis de mes parents, des gens avec qui j'ai étudié à Londres, de tout domaine différent, pour discuter avec eux de leur attachement à cette femme, à cette famille. J'ai creusé, j'ai regardé des documentaires, j'ai recherché dans des livres d'histoire. J'ai sorti beaucoup de petites anecdotes et j'ai essayé de mettre une bonne dose d'humour parce que je pense que ça me caractérise et ça caractérise aussi les Britanniques. La vie, elle est chouette quand elle est parsemée de drôleries, d'anecdotes et de fun. Et j'espère que c'est ce qu'on ressent quand on lit mon livre, qui est c'est un hommage modeste, mais fun et souriant, j'espère.
Pour terminer cette interview, Louise, en exclusivité pour les auditeurs de Grand Sud FM, est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager ?
Il y a plein de petites anecdotes que j'adore. Vous savez qu'elle ne joue pas au Monopoly ? Ouais, elle ne joue pas au Monopoly parce que c'est un jeu capitaliste vulgaire. Et dans sa famille, ça crée le débat à chaque fois qu'il jouait. Donc, il y avait un petit peu, ça finissait en froid d'empoigne. Et donc, du coup, c'est banni de la famille royale. Voilà une petite anecdote.
Merci pour la suite. Eh bien, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Louise Eklund, God Save My Queen. Et puis également, vous serez à l'espace rencontre aujourd'hui à partir de 15h pour nous présenter donc God Save My Queen. Merci beaucoup, Louise.
De rien. Venez cet après-midi. À tout à l'heure.
Voilà, Jean-Michel, nous étions avec Louise Eklund pour nous parler de ce livre God Save My Queen. On va continuer de vous faire procurer toutes les émotions de ce salon du livre du Grand Narbonne. Et dans quelques instants, eh bien, vous aurez l'eau à la bouche, car on prend la direction des Halles de Narbonne et nous serons notamment avec le chef David Gallienne.
Et bien, on se retrouve dans quelques minutes sur Grand Sud FM. Merci beaucoup, Benjamin.
Grand Sud FM.
Vous écoutez Grand Sud FM, 11h passée de 4 minutes. Nous partons aux Halles de Narbonne à l'occasion du Salon du Livre du Grand Narbonne. On va retrouver Marilyn avec le chef David Gallienne.
Et oui, tout à fait, Jean-Michel, au cœur des Halles. Donc, on est avec David Gallienne. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Alors, c'est vrai que c'est l'heure de la pause gourmande pour nous et on invite bien sûr les auditeurs de Grand Sud FM à nous rejoindre au cœur des Halles de Narbonne, à venir à votre rencontre. Je vais quand même rappeler que vous êtes chef étoilé. Vous avez gagné l'émission Top Chef 2020. Alors, rappelez-nous un petit peu quand même votre parcours avant Top Chef.
Alors, moi, je suis issu de l'apprentissage. J'ai toujours su que je voulais être cuisinier depuis mon plus jeune âge. Et c'est ma grand-mère, mon grand-père qui m'ont poussé à en faire mon métier. Ma grand-mère aurait bien aimé en faire son métier. Elle a élevé des enfants de la DAS, puisque après, ma maman, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et c'est ce qui l'a poussé à élever des enfants qui n'étaient pas les siens. Donc, on était souvent nombreux à table et c'est elle qui s'y collait à la cuisine. Voilà. Et donc, quand j'étais pas avec le grand-père dans le potager, eh bien, j'étais avec la grand-mère derrière les fourneaux.
Voilà. Donc, au plus jeune âge, c'est bien ça, David Gallienne. Donc, votre cuisine, comment est-ce que vous la définiriez?
J'ai une cuisine qui, d'abord, est très respectueuse de l'environnement, de la saisonnalité. Pour moi, c'est la première chose. C'est très important. Enfin, on se doit, en tout cas, de montrer l'exemple auprès de nos hôtes et de leur transmettre justement tout ça. Donc, c'est une cuisine avec laquelle je m'amuse dans mon terroir local, puisque je suis normand pur beurre et très attaché à mes terres natales. Une cuisine très engagée avec 98% de producteurs locaux. Enfin, les deux autres pourcents, je dirais, ils viennent de beaucoup plus loin, puisque je suis un amoureux des voyages et je m'inspire. En fait, j'ai vraiment une cuisine qui est ouverte sur le monde. À travers ces découvertes de culture, eh bien, je vais réinventer les plats avec les produits de ma Normandie.
Et tout ça, David Gallienne, on le retrouve dans votre livre de cuisine qui s'appelle « Nature de la terre à l'assiette », donc 80 recettes. Vous l'avez dit, vous êtes proche de la Normandie, donc ce livre, c'est un petit peu une visite gastronomique de la Normandie, mais pas que. Comment est-ce que vous abordez les choses, finalement, dans votre livre de cuisine? C'est assez simple?
Des recettes que j'ai choisies qui ont fait vibrer des millions de téléspectateurs à la télé, puisque j'ai repris quelques recettes que j'ai fait lors de l'émission, des recettes signatures du restaurant que j'ai simplifiées et modifiées de façon à ce que ce soit reproduit à la maison.
Donc c'est, on va dire, à la portée d'un cuisinier classique.
Il y a vraiment tout niveau, quoi. Il y a des recettes basiques, il y a des recettes un peu plus confirmées. Mais quand on veut, on peut et on y arrivera et j'ai aucun doute. Et alors, en plus, quand je vois la beauté des produits qu'il y a à Halles de Narbonne, il y a de quoi se faire plaisir ici.
Voilà, vous avez fait votre marché puisque dans quelques minutes, vous allez proposer une rencontre gourmande. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre gourmande? Vous allez proposer une recette tout simplement?
Eh bien, je vais faire une recette qui me tient à cœur, une recette de mon livre de cuisine. Je ne pouvais pas venir de ma Normandie sans apporter un camembert. Voilà, le camembert, c'est la vie. J'ai travaillé une recette qui va être beaucoup plus légère, parce que généralement, le camembert, quand on arrive après un repas, c'est quelque chose de riche, de lourd, de gras. Eh bien, je l'ai allégé dans une version émulsionnée, en fait, comme une espèce de chantilly. Pour casser le côté gras du camembert, on va travailler la poire et le vinaigre de cidre qui va venir justement nettoyer tout ça. Et quelques jeunes pousses de salade toutes fraîches comme ça, disposées sur le dessus, une croûte de camembert, va déshydrater du camembert au micro-ondes parce que le micro-ondes est un véritable outil de travail. Je m'en sers jamais, mais pour le coup, là, c'est une recette un petit peu secrète que je dévoile au grand public pour réaliser cette fameuse chapelure de camembert.
Alors, vous avez vos apprentis, si je puis dire, pour cuisiner avec vous ce matin, notamment Stéphane Romain.
Il y a Stéphane qui est là, mais il y a aussi pas mal de gens que j'ai rencontrés hier et dont j'ai dédicacé mon livre, qui sont revenus ce matin pour justement cuisiner et déguster ma cuisine.
Ça va être super. Je vois qu'on s'affaire en cuisine. Je vais pas vous retenir trop longtemps. Juste pour finir, David Gallienne, On vous retrouve sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Vous êtes là jusqu'à 17h, vous ?
Alors non, je dois partir. Mon train est à 14h, donc vous pouvez me retrouver jusqu'à 13h sur le stand. Je crois le long des quais, hein, c'est ça ?
Oui, on est sur le cours Mirabeau.
Cours Mirabeau, voilà. Donc je vous y attends.
Alors on vous retrouve, je vais même être plus précis, sur le stand numéro 7. Sur le salon, le stand de Cultura. Retenez bien le nom du livre, Nature de la Terre à l'assiette. En tout cas, merci, je vais vous laisser cuisiner. Je vais laisser les visiteurs des Halles se régaler avec vous. Et merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes, David Gallienne. À bientôt.
Avec grand plaisir, à bientôt. Merci Narbonne.
On continue sur Grand Sud FM, on va terminer dans quelques instants. Avec Jean Guilaine, on va retourner sur le Salon du Livre. On était venu faire une petite escapade au cœur des Halles de Narbonne. J'en profite pour vous dire que c'est le moment de voter. Votez pour les Halles de Narbonne sur votre plus beau marché.fr. Hein, ça, c'est important. Vous savez que cette année, comme on dit, c'est peut-être la bonne pour Narbonne. Donc, c'est à vous de le faire. C'est à vous de voter un maximum de fois. Vous savez que Stéphane Romain, vous en avez déjà parlé. Allez, je vous dis à tout à l'heure, dans quelques minutes, Jean-Michel, avec notre dernière invitée, qui est Jean Guilaine. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Marilyn. On poursuit sur Grand Sud FM avec une courte pause.
Grand Sud FM.
Stop, Sam Brown sur Grand Sud FM, 11h18. Bonne fin de matinée à vous toutes et à vous tous. Nous repartons sur le cours Mirabeau de Narbonne. C'est le salon du livre du Grand Narbonne. On va retrouver Benjamin avec Jean Guilaine.
Oui, Jean-Michel, je suis en compagnie de Jean Guilaine que vous pouvez retrouver sur le stand numéro 17, librairie Libellis. Sachez que Jean Guilaine est également à retrouver dans l'espace Rencontre. Ce sera cet après-midi à partir de 15h45. Je suis donc avec Jean Guilaine, préhistorien et archéologue. Bonjour Jean Guilaine.
Bonjour.
Alors, vous avez une spécialisation, Jean Guilaine, c'est proto-historien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie ?
Écoutez, j'emploie le terme proto-histoire au sens le plus large possible, c'est-à-dire en gros du néolithique, c'est-à-dire du moment où l'homme se sédentarise et devient un paysan, pratiquement jusqu'à la conquête romaine. C'est-à-dire que pour moi, ces quelques millénaires qui vont en France entre, disons, 6000 et la conquête romaine, c'est-à-dire le premier siècle avant notre ère, tout cela, pour moi, c'est les débuts de l'histoire rurale, ce sont les débuts du monde villageois, du monde paysan, et j'appelle cela la proto-histoire.
Alors, vous avez écrit plusieurs livres, Jean Guilaine, par exemple, les hypogées préhistoriques, de la Méditerranée, la transition néolithique en Méditerranée, et bien d'autres. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre via vos différents livres ?
Écoutez, ma spécialité, donc, c'était le néolithique, essentiellement, c'est-à-dire l'époque des premiers paysans. Et j'ai cherché tout au long de ma carrière à mieux connaître la façon dont l'homme s'était sédentarisé, était devenu un villageois, un agriculteur, un éleveur, en faisant des fouilles pratiquement tout au long de la Méditerranée, au Proche-Orient, à Chypre d'abord, n'est-ce pas, où j'ai fouillé pendant 25 ans, mais aussi en Grèce, en Italie, en France et dans le nord-est de la péninsule ibérique. Donc j'ai fait beaucoup de terrain, et j'ai beaucoup écrit, à la fois des livres très scientifiques, illisibles pour le grand public, mais qui sont du miel pour les spécialistes. Et puis ensuite, quelques livres pour le grand public, dont celui que vous citez sur les hypogées d'Arles, mais il y en a plusieurs qui sont d'ailleurs en vente à la librairie Libellis.
Alors, on va parler de votre tout dernier livre, Jean Guilaine, qui s'appelle « Femmes d'hier ». Donc, image, mythe et réalité du féminin néolithique. Est-ce que ce livre permet de mieux cerner le rôle des femmes au néolithique ?
Eh bien, écoutez, j'ai essayé de le faire. Hein. Donc, vous savez, en archéologie, lorsqu'il s'agit de faire du descriptif, c'est-à-dire de voir comment les gens construisaient les maisons, aménageaient leurs tombes, chassaient, pêchaient, cultivaient, ce qu'ils mangeaient. Tout cela, c'est du descriptif, c'est relativement facile. Dès que l'on touche au problème de société, comme nous n'avons pas d'écrit, n'est-ce pas, d'écriture, c'est plus difficile, bien entendu. Et donc, j'ai essayé quand même, à partir d'un certain nombre de données, qui sont des figurines, des stèles, de l'art rupestre, des tombes aussi, et maintenant la génétique, j'ai essayé de voir quelles étaient, en quelque sorte, quelles étaient les fonctions des femmes de l'époque, et surtout, quelle position sociale elles occupaient. Et le résultat de ce travail, c'est de montrer qu'en réalité, rien n'est ni blanc ni noir, mais qu'en réalité, tout dépend de la position sociale des personnes considérées. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui pouvaient être intégrées dans les classes, je n'aime pas trop le terme classe, parce qu'il est très moderne, mais disons dans les sphères les plus élevées de la société, mais il y en avait d'autres qui étaient tout à fait au bas de l'échelle, et donc tous les cas de figure sont possibles, et il ne faut pas généraliser. Au fond, ce livre est un livre contre les stéréotypes du féminin.
Pour terminer, Jean-Guilaine, donc vous serez sur cette table ronde donc qui a lieu à partir de 15h45 avec le Narbonnais Christian Pastre. Il sera question du néolithique entre fiction et archéologie. Qu'est-ce que l'on va pouvoir retrouver lors de cette table ronde?
Mais notre ami Pastre a écrit un roman. Moi-même, j'écris d'ailleurs deux romans sur le néolithique. Le roman, vous savez, c'est la liberté. Alors moi, quand j'ai ma casquette d'archéologue, je veux dire, je suis très proche de l'objectivité, c'est-à-dire des observations scientifiques. Dans le roman, on se lâche un peu, et autrement dit, c'est la liberté, on peut dire ce qu'on veut, tout en gardant un cadre chronologique et un cadre, disons, de vie tout à fait logique, mais on est beaucoup plus libre.
Eh bien, merci à Jean-Guilaine d'avoir répondu à mes questions sur Grand Sud FM. Donc, n'oubliez pas, la table ronde, 15h45, le néolithique entre fiction et archéologie, ce sera donc avec le Narbonnais Christian Pastre. Et vous pouvez retrouver donc Jean-Guilaine sur le stand numéro 17, librairie Libellis. Merci beaucoup, Jean-Guilaine.
Merci à vous.
Allez, Jean-Michel, on va terminer donc sur le salon du livre du Grand Narbonne dans quelques instants, puisque Marilyn va interviewer, vous savez, le champion des 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. C'est Paul que l'on va retrouver dans quelques instants sur Grand Sud FM.
Ce sera juste après Yannick Noah.
Grand Sud FM.
Yannick Noah sur Grand Sud FM, 11h27. Excellente fin de matinée à vous toutes et à vous tous. Nous repartons sur le salon du livre du Grand Narbonne avec Marilyn et un nouvel invité.
Et oui, on va terminer nos interventions ce matin sur la 8e édition du salon du livre du Grand Narbonne avec Paul Elkarat. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, Paul Elkarat, les auditeurs de Grand Sud FM, pour la plupart, je pense, vous connaissent. Regarde la célèbre émission des 12 coups de midi.
Oui, après, on peut pas faire une généralité, mais nombreux sont ceux qui regardent assidûment ou pas l'émission, et donc ils savent qui je suis, oui. Ils ont dû me suivre pendant de longs mois.
Alors moi, j'aimerais que vous présentiez un petit peu, justement, Paul.
Je m'appelle Paul Elkarat, j'ai 23 ans. Il y a 3 ans, j'ai participé à l'émission des 12 coups de midi sur TF1, donc d'avril à octobre 2019, et c'est là où le public m'a rencontré pour la toute première fois.
Et depuis, le public, je pense, vous suit.
Depuis, j'ai fait de nombreuses activités. J'ai enchaîné avec l'écriture d'un premier ouvrage. Ensuite, j'en ai fait la promotion sur de nombreuses chaînes télévisées. Dans des salons du livre et d'autres rencontres avec le public, et ensuite j'ai été invité, convié aux Grosses Têtes sur RTL, et ensuite j'ai écrit un autre livre plus historique, celui-là, et depuis le succès ne se démon pas. Non, ça c'est la phrase que tout le monde non, mais on peut l'employer à escient sur ce coup-là, oui, parce que j'ai quand même de nombreuses activités à honorer et à faire avec un plaisir non dissimulé, ouh là là.
Oui, je me doute. Mais c'est vrai que, Paul, en fait, vous l'avez dit, deux ouvrages que vous mettez en avant. Le premier, qui est un petit peu votre victoire des 12 coups de midi.
Oui, on peut dire que le premier, c'est... Il n'y a pas que les 12 coups de midi, c'est vrai, mais ça tourne autour, la couverture ne ment pas. Il y a mon parcours télévisuel et mon parcours de vie, c'est-à-dire là où j'ai habité... les études que j'ai pu entreprendre, mes relations aux autres, ma vision de la vie de manière moins profonde que le livre qui sortira en octobre, qui sera beaucoup plus profond, beaucoup plus assidu, beaucoup plus on va dire ténébreux. La face cachée, la revers de la médaille me concernant, où ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, où ça a été très difficile, très compliqué, et avec mon esprit, mon cerveau un peu tourmenté, un peu complexe, si je peux me permettre, digne d'un un peu un esprit nietzschéen, vous voyez. Bah, c'est un peu ça. Donc ce livre-là, c'est vraiment... Ça pourra compléter de manière directe ou indirecte le livre qui sortira en octobre. Et ensuite, j'ai sorti un livre sur les crimes et mystères de Paris, qui est une fresque historique sur les affaires criminelles de Paris, de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Des crimes révolutionnaires jusqu'au gang des tractions avant. Voilà.
Et c'est pour ça qu'on peut venir vous voir sur ce salon du livre. Vous êtes au stand Cultura, le numéro 7, Paul Elkarat. Si vous ne connaissiez pas son nom, je suis persuadée que vous allez le reconnaître. Et il vous attend donc avec ma 153e victoire et donc Crime et Mystère, c'est bien ça ?
Paris, exactement. Deux ouvrages rédigés et sortis en 2020 et 2021 et le prochain en octobre 2022.
Ben voilà, vous êtes un auteur confirmé et vous êtes là jusqu'à 13h, j'insiste, 13h si vous voulez une dédicace de Paul.
Exactement, je reste jusqu'à 13h car après je vais pas tarder à rentrer chez moi après avoir visité une connaissance, voilà. Et puis j'ai aussi les grosses têtes mardi matin.
Oui, donc il faut rentrer, se reposer un peu.
Oh, j'aime bien.
Merci beaucoup Paul Elkarat, c'était un plaisir de clôturer notre émission sur ce 8e Salon du Livre du Grand Narbonne et puis qui sait, peut-être à l'an prochain.
Ben, merci à vous de l'interview et peut-être à l'année prochaine avec d'autres ouvrages à signer et à dédicacer. Ouais.
Merci Paul. Voilà, ben, c'est sur ces quelques mots que nous terminons notre intervention ce matin sur ce 8e Salon du Livre du Grand Narbonne. On vous invite à venir, le Salon du Livre, c'est sur le cours Mirabeau à Narbonne. Il y a une centaine d'auteurs, c'est jusqu'à 17h, il y a une très très bonne ambiance, c'est un espace rencontre. Donc n'hésitez pas à aller voir le programme. Et puis venez vous renseigner directement sur place, bien évidemment. Je vais terminer en disant merci à Spot Communication à Narbonne pour nous avoir offert les t-shirts de ce salon du Grand Narbonne. Et puis on le remercie aussi parce qu'il nous a fait de très très beaux éventails qui remportent un succès fou sur ce salon au vu de la chaleur. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous et je vous dis à demain sur Grand Sud FM. Merci Jean-Michel et à bientôt.
Merci à Marilyn, merci à Benjamin. Et ben moi, j'ai le plaisir de vous accompagner encore jusqu'à midi. Passez un excellent dimanche matin. Grand Sud.